Ils passèrent également la journée du lendemain en sa compagnie, mais sans beaucoup s'éloigner de sa maison. Ils restèrent la plupart du temps assis en silence, abrités sous le talus, car le vent était plus froid et les nuages plus bas et plus gris. Le soleil se voyait rarement, et au loin, les voix du cercle des Ent continuaient de s'élever et de retomber, parfois hautes et fortes, parfois faibles et tristes, tantôt se précipitant, tantôt graves et lentes comme un traîne. Une deuxième nuit tomba, et les Ent continuèrent de tenir conclave sous les nuages pressés et les étoiles clignotantes. Le troisième jour arriva, sombre et venteux. Au lever du soleil, les voix des Ent s'élevèrent en une grande clameur et s'apaisèrent de nouveau. À mesure que la matinée avançait, le vent tomba et l'air devint lourd d'appréhension. Les hobbits constatèrent que Bregalad écoutait à présent d'une oreille attentive, même si du fond du vallon où nichait sa maison d'Ent, la rumeur du cercle n'était pour eux qu'un faible murmure. L'après-midi était venu, et dans sa course vers l'ouest et les montagnes, le soleil dardait de longs raies jaunes entre les fentes et les interstices des nuages. Soudain, ils s'aperçurent qu'un profond silence était tombé. Toute la forêt se dressait dans une attente muette. Naturellement, les voix des Ents s'étaient tues. Qu'est-ce que cela signifiait? Bregalad, droit et tendu, était tourné vers le nord, vers Combel Close. Au milieu d'un fracas vint alors un cri. « Ra, oum, ra !» Les arbres frémirent et se courbèrent comme frappés par une bourrasque. Il y eut encore un silence. Puis, un air de marche s'ouvrit, tel un solennel battement de tambour, et au-dessus des roulements et des tonnerres jaillirent des voix qui chantaient haut et fort.
« Nous voici, nous voilà, tambour et patatras, tarunda, runda, runda, ra !»
Les Ent arrivaient. Leur chant ne cessait de s'enfler.
Nous voici, nous voilà, clairons et patatras, tarunna, runna, runna, ra.
Bregalad ramassa les hobbits et quitta sa maison à grands pas. Ils ne tardèrent pas à voir approcher la longue cohorte d'Ent, oscillant de côté et d'autre et descendant vers eux avec de grandes foulées. Barbe-Bois allait en tête, et une cinquantaine de suivants étaient derrière lui, marchant au pas, deux de front, et battant la cadence en tapant des mains sur leurs flancs. Éclairs et étincelles se voyaient dans leurs yeux, tandis qu'ils approchaient.
« Oum, oum, nous voici avec un boum, nous voici enfin !»
s'écria Barbe-Bois en apercevant Bregalad et les hobbits.
« Venez, joignez-vous au cercle, nous partons à Isengard !»« À Isengard !»
crièrent les Ents d'une multitude de voix.
« Ah, Isengard !»« Oh, Isengard, bien qu'Isengard soit haut et noir, cerclé de roches, bien qu'Isengard soit dur et fort, imperméable à toute approche, allons, partons, partons en guerre, brisons la porte, fendons la pierre, branches et troncs brûlent là-bas, le fourneau gronde, allons en guerre !» Pour sceller le sort d'Isengard, boum patatras, nous arrivons. À Isengard, nous arrivons, boum patatras, nous arrivons. Le sort d'Isengard, scellerons.
Ainsi chantèrent-ils en marchant vers le sud. Bregalad, l'œil brillant, se glissa dans le rang aux côtés de Barbe-Bois, dodelinant du chef. Le vieil Ent reprit alors les hobbits et les remit sur ses épaules, de sorte qu'ils allèrent fièrement à la tête de la compagnie chantante, le cœur battant et la tête haute. S'ils n'avaient jamais douté que quelque chose finirait par arriver, ils n'en étaient pas moins abasourdis du changement qu'ils constataient chez les Ent. Il paraissait aussi soudain que l'assaut d'une rivière longtemps retenue par une digue.
Les Ent se sont décidés assez rapidement, tout compte fait, n'est-ce pas ?
Hasarda Pipin après quelque temps, quand le chant fit relâche un moment et qu'on n'entendit plus que le battement des mains et des pieds.
« Rapidement ?» dit Barbe-Bois. « Oum, oui, c'est vrai. Plus rapidement que je ne l'aurais cru. En fait, je ne les ai pas vus aussi éveillés depuis bien des lustres. Nous, les Ent, nous n'aimons pas être secoués, et nous ne nous secouons jamais, sauf s'il devient évident que nos arbres et nos vies courent un grave danger. Dans cette forêt, ça n'est pas arrivé depuis les guerres entre Sauron et les hommes de la mer. C'est l'ouvrage des orques, le massacre gratuit de nos arbres, Rarum, sans même la mauvaise excuse d'avoir à alimenter les feux qui nous a rendus aussi furieux, et la trahison d'un voisin qui aurait dû nous aider. Les magiciens devraient être plus sensés. En vérité, ils le sont. Il n'est pas de malédiction assez forte en elfique, en entique ou dans les langues des hommes pour qualifier une telle trahison. Abat Saruman!
Allez-vous réellement briser les portes d'Isengard? Demanda Merry.
Oh, eh bien, nous en serions capables, vous savez. Vous ne comprenez peut-être pas à quel point nous sommes forts. Peut-être avez-vous entendu parler des trolls. Ils sont terriblement forts, mais les trolls ne sont que des contrefaçons faites par l'ennemi durant la grande obscurité, une parodie des Ents, comme les orques étaient une parodie des elfes. Nous sommes plus forts que les trolls. Nous venons des eaux de la terre, comme les racines des arbres. Nous pouvons fendre la pierre, mais plus rapidement, bien plus rapidement, quand notre esprit s'échauffe. Si nous ne sommes pas abattus, détruits par le feu ou soufflés par quelque sorcellerie, nous pouvons faire voler Isengard en éclats et réduire ses murailles en miettes.
Mais Saruman tentera de vous arrêter, non ?
Oui, c'est exact. Je ne l'ai pas oublié. En fait, j'y ai longuement réfléchi, mais voyez-vous, une grande partie des Ents sont plus jeunes que moi, de bien des générations d'arbres. Ils sont tous réveillés à présent, et leur esprit n'est voué qu'à une chose, briser Isengard. Mais ils se remettront à réfléchir bien assez vite, ils se refroidiront un peu quand nous prendrons notre boisson du soir. Quelle soif nous aurons! Mais qu'ils marchent maintenant, qu'ils chantent, nous avons une longue route à faire, et il y aura encore le temps de réfléchir. C'est quelque chose que d'être parti.
Barbe-Bois poursuivit sa marche, chantant avec les autres un moment. Mais après quelque temps, sa voix se réduisit à un murmure, et il retomba dans le silence. Pipin remarqua que son vieux front était plissé et noueux. Enfin, il releva la tête et Pipin vit que ses yeux avaient un air triste, triste mais pas malheureux. Une lueur était en eux, comme si la flamme verte avait pénétré plus avant dans les sombres puits de sa pensée.
Bien entendu, il est tout à fait probable, mes amis, dit-il lentement, tout à fait probable que nous courons vers notre perte, la dernière marche des Ents. Mais si nous restions chez nous à ne rien faire, notre perte viendrait tôt ou tard de toute façon. Cette pensée a longuement mûri dans nos cœurs. C'est pourquoi nous marchons aujourd'hui. Ce n'était pas une décision hâtive. Au moins, la dernière marche des Ents pourrait valoir une chanson. Oui, soupira-t-il, nous pourrions aider les autres peuples avant de disparaître. J'aurais tout de même voulu voir se réaliser les chansons sur les Ents femmes. J'aurais tant aimé revoir Fimbrethil. Mais voilà, mes amis, les chansons, tout comme les arbres, ne portent leurs fruits qu'au moment voulu et à leur manière. Et parfois, ils se gâtent prématurément.
Les Ents continuaient d'avancer à vive allure. Ils étaient descendus dans un long repli des terres qui dévalait vers le sud. À présent, ils se mirent à grimper et grimper jusqu'à la haute crête à l'ouest. Les bois laissèrent place à des bouleaux réunis en bosquets épars, puis à des pentes dénudées où ne poussaient que quelques pins décharnés. Le soleil sombra derrière le dos de la colline qu'ils étaient en train d'escalader, faisant place à un crépuscule gris. Pipin regarda en arrière. Les Ents devenaient plus nombreux. Ou que se passait-il ? Là où auraient dû se trouver les pentes sombres et dénudées qu'ils venaient de gravir, ils croyaient apercevoir des bouquets d'arbres. Mais ils se déplaçaient. Se pouvait-il que les arbres de Fangorn fussent en éveil, que la forêt se leva, traversant les collines pour aller en guerre ? Il se frotta les yeux, se demandant si le sommeil et la pénombre ne l'avaient pas trompé, mais les grandes formes grises continuaient d'avancer. Un bruit s'élevait, comme le vent dans une voûte de branches. Les Ents approchaient maintenant du haut de la crête, et tout chant avait cessé. La nuit tomba, et le silence se fit. Il n'y avait plus un son, sinon le frémissement de la terre sous les pas des Ents et un bruissement, l'ombre d'un murmure, comme des tas de feuilles mortes emportées par la brise. Parvenus enfin au sommet, ils regardèrent dans une sombre fosse. La grande enclave à l'extrémité des montagnes, Nan Kurunir, la vallée de Saruman.
« La nuit s'étend sur Isengard, » dit Barbe-Bois.